Mieux penser pour mieux agir en Méditerranée. Une table ronde organisée par l'AMAR en partenariat avec la MAIF et le soutien du Télégraphe. Émission enregistrée le 4 novembre 2022. Ce quatrième épisode donne la parole à Jean-Ronan Le Pen, activiste pour la protection de l'océan et du climat.
Jean-Renan, qui est cofondateur de ZEA, va nous donner le point un peu plus action du panel en tant qu'activiste.
Elle me met la pression, merci Léa. Merci beaucoup d'être là ce soir et je suis ravi d'être là parce que pour plusieurs raisons. D'une, parce que souvent nul n'est prophète en son pays et donc du coup nous avec ZEA, on a fait des actions un peu partout en France mais peu à Toulon alors qu'on est basé à Toulon depuis des années. Et donc c'est bien aussi de faire le retour directement chez nous. On a fait quelques actions que je vais vous présenter dans le coin, mais finalement, beaucoup de nos actions étaient un peu ailleurs. Comme il y avait un panel assez large, moi, je pouvais vous parler de pas mal de choses, mais j'ai souhaité faire un point sur le réchauffement climatique, dont on parle énormément. Et donc, on l'a vu cet été, que c'était assez maintenant une réalité tangible et plus seulement des rapports du GIEC. Mais je voulais juste faire un point sur les conséquences du réchauffement climatique sur la Méditerranée et nous, le choix qu'on a fait dans notre combat de se battre contre les énergies fossiles qui sont responsables du changement climatique. Je suis aussi très heureux d'être là par rapport au titre de la conférence qui est « Mieux penser pour mieux agir » parce que j'ai beaucoup mobilisé des scientifiques lors de mes actions précédentes à la constitution de ZEA. On a monté une plateforme qui s'appelait Océan Climat avec des scientifiques du monde entier et des ONG pour alerter sur les conséquences du changement climatique sur l'océan et l'objectif de protéger l'océan pour sauver le climat. J'ai monté aussi une plateforme qui s'appelait Océan Plastique. Et je pense que c'est très, très important de mobiliser les scientifiques pour avoir une connaissance très claire sur les enjeux pour qu'ensuite les citoyens puissent se l'approprier et agir vraiment dans le bon sens. Par exemple, sur le plastique, il y avait, quand j'ai monté cette plateforme, des projets qui étaient de nettoyer la mer du plastique. Et en fait, tous les scientifiques disaient, mais ils n'étaient pas entendus, mais c'est une aberration parce que, en fait, le plastique, une fois qu'il est en mer, on l'a vu tout à l'heure, il se dégrade et donc, du coup, ça devient du microplastique, donc c'est impossible de le récupérer. Et en plus, il se mélange avec la biomasse et on se retrouve avec des organismes vivants qui sont mêlés au plastique. Et donc, ramasser le plastique, ça voulait dire ramasser aussi beaucoup d'êtres vivants. Et donc, toutes ces solutions technologiques qui ne sont pas, en fait, sont pour moi et pour nous des actions qui sont néfastes parce que la connaissance n'est pas suffisante et les scientifiques n'ont pas suffisamment donné leur connaissance ou leur n'a pas été assez reconnu. Et finalement, on se trouve avec des solutions technologiques complètement aberrantes qui ne répondent pas du tout à l'enjeu. Et l'enjeu, il est bien celui-là, c'est-à-dire d'empêcher que le plastique arrive dans l'océan et de mieux le traiter avant, voire d'arrêter sa consommation. Mais je ne parlerai pas de plastique ce soir, je parlerai du réchauffement climatique. Dans le cadre de cette plateforme Océan Climat, on a fait un rapport du GIEC de l'océan, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. On a réuni tous les scientifiques qui s'intéressaient à l'océan et on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse scientifique qui peut servir aux décideurs pour nous dire pourquoi l'océan est vital pour l'humanité. L'océan est l'assurance vie de notre planète, de la vie sur Terre. C'est une réalité, c'est-à-dire que l'océan est notre assurance vie. Elle capte 25% du carbone qui est émis par l'homme, donc le carbone anthropique. Donc on dit souvent que la forêt, c'est le poumon de la planète, mais en fait, l'océan, c'est le premier poumon de la planète, parce qu'il capte 25% du CO2. Il capte aussi 90% de l'excès de chaleur qui est fait par nos émissions anthropiques. Ça veut dire que l'océan se réchauffe beaucoup plus vite que l'atmosphère, et que si on n'avait pas l'océan, finalement, la Terre serait déjà invivable pour l'humanité et pour beaucoup d'espèces vivantes. Donc c'est notre assurance vie véritablement parce que sans l'océan, on ne vivrait plus sur notre planète. Malheureusement, le changement climatique fait que l'océan se réchauffe puisqu'elle capte l'excès de chaleur et s'acidifie puisqu'elle capte du CO2 qui crée une acidification de l'océan. Ce qui crée des déséquilibres pour les écosystèmes marins et en plus qui réduit la capacité de l'océan de capter du carbone et donc du coup finalement plus on émet du carbone et moins l'océan est capable de l'intégrer et donc du coup le réchauffement climatique s'accélère de plus en plus. Donc du coup on a parlé des coraux et une des conséquences évidemment du réchauffement climatique sur l'océan, le corail en fait c'est un écosystème en tant que tel et donc sans les coraux finalement on n'a plus de frayères à poissons et donc tout l'écosystème est déséquilibré. Et les scientifiques nous disent que si on continue avec le même réchauffement climatique qu'actuellement, en 2050, l'essentiel des coraux seront morts. Il faudra beaucoup de jardiniers et de la mer pour les replanter parce que malheureusement, ça sera dans le monde entier qu'on aura des gros problèmes de récifs coralliens. Pour revenir à la Méditerranée, puisque le changement climatique a des impacts sur l'océan global, mais a des impacts aussi sur la Méditerranée, voire plus, parce que c'est une mer fermée et que c'est une mer qui, du coup, se réchauffe plus vite que l'océan global. Ça, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais 18% des espèces marines qui sont connues sont dans la Méditerranée sur 0,3% de la surface de l'océan. Donc c'est un puits de biodiversité, un réservoir de biodiversité. Et malheureusement, la Méditerranée est une des mers les plus impactées du monde. Donc on a vu avec la pollution plastique, mais on le voit avec le réchauffement climatique, puisque la Méditerranée subit un réchauffement 20% supérieur à la moyenne mondiale. Donc on a plus 1 degré de la température de l'eau et plus 1,6 de la température de l'air. Et vous avez vu qu'on a parlé cet été, pour la première fois, de canicule marine. C'est-à-dire qu'on avait des températures qui étaient tellement extrêmes qu'on avait la mer Méditerranée qui était à 30 degrés au large de la Corse. On avait des vraies canicules marines. Nous, on sait l'impact de la canicule sur les organismes humains. C'est la même chose sur les organismes marins, et d'autant plus sur les organismes marins qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne peuvent pas changer de territoire, comme les coraux, comme les posidonies, comme on va le voir tout à l'heure. On a une pollution massive chimique qui est due à l'agriculture intensive et à une mauvaise gestion des eaux usées de l'industrie et des villes. Et donc, du coup, on a vraiment des écosystèmes qui sont très, très impactés. 78 espèces marines qui sont en danger et 78% des poissons qui sont surexploités en Méditerranée. Le panorama est assez déprimant, mais on peut agir. Le constat n'est pas fini encore, puisque les conséquences, on l'a vu, sur les écosystèmes sont majeures, mais aussi sur les populations, puisqu'on parle d'une augmentation de la mer entre 0,5 et 2,5 mètres en 2100, d'une salinisation des sols due à cette augmentation du niveau de la mer, et d'une réduction de la biodiversité marine due aux pollutions, au changement climatique et à la surpêche, qui fait que les 100 millions d'habitants des côtes méditerranéennes qui dépendent majoritairement de l'agriculture et de la pêche risque d'avoir des gros problèmes pour se nourrir dans les prochaines années. On a aussi les sécheresses, les feux, les événements climatiques extrêmes. Je ne vais pas en rajouter plus. 20% à 48% de la population méditerranéenne risque de souffrir de stress thermique en 2050. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut plus vivre dehors. C'est-à-dire que la température est tellement haute qu'on ne peut plus vivre dehors. Donc 50% des populations de la Méditerranée risquent de souffrir de ce stress thermique. Une chute des productions agricoles et de la pêche qui fait augmentation des maladies, des conflits et des réfugiés climatiques. Bonsoir. Donc le constat, évidemment, n'est pas très réjouissant. On voit qu'on a une jeunesse qui est soumise à un stress important sur son avenir en disant « mais qu'est-ce que je peux faire ?» parce que là, on est parti dans une course folle vers un changement climatique et une planète qui ne sera plus viable à horizon 2100. Donc ça veut dire que les bébés qui naissent actuellement, ils auront 80 ans en 2100. Hein, donc ce n'est pas très vieux. Et on dit qu'en 2100, on risque d'avoir une planète qui sera vraiment dégradée pour la vie sur Terre. On a un coupable idéal. Les énergies fossiles, c'est les scientifiques qui le disent, 80% du changement climatique est dû à la combustion des énergies fossiles. C'est aussi les énergies fossiles qui permettent de produire du plastique. C'est aussi les énergies fossiles qui permettent de produire des engrais chimiques, qui permettent de produire des pesticides. Donc les énergies fossiles sont globalement à la base des maux de notre société, de notre surproduction, de notre surconsommation. Et donc c'est bien aux énergies fossiles qu'il faut s'attaquer. Et donc nous, on a monté une association, après avoir fait cette plateforme Océan Climat, on s'est dit comment est-ce qu'on peut agir véritablement sur le changement climatique qui impacte l'océan. Donc nous, on a considéré que la première cible, c'était les énergies fossiles. Donc on a fait des campagnes pour bloquer des permis d'exploitation et de production d'énergie fossile en Méditerranée. Donc nous, on a considéré qu'il fallait juste arrêter cette aberration. Et donc on a fait des actions pour arrêter un projet pétrolier au large de la Corse et de la Sardaigne. Donc celui-là, on a réussi à le faire, faire sauter. On a fait une mobilisation en Guyane aussi avec deux associations pour arrêter un projet d'exploitation pétrolière au large de la Guyane. On a réussi à arrêter, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on avait eu aussi des actions proches d'ici. Il y avait un projet de centre d'expérimentation en mer profonde au large de l'île du Levant. Donc en gros, c'était là où ils voulaient tester tout leur matériel pour aller forer le plus profondément possible, pour aller chercher la dernière goutte de pétrole qu'il y avait dans le sous-sol marin. Quoi. Au large de l'île du Levant, en plein sanctuaire Pélagos, dans une zone naturelle, ils ne reculent devant aucune aberration écologique. Et donc du coup, nous, notre action au quotidien, ou en tout cas jusqu'à ce qu'on ait obtenu les moratoires en Méditerranée, en Atlantique, puis la loi Hulot, c'était de trouver les projets pétroliers en mer, d'essayer de les bloquer par la voie légale, par la voie citoyenne, et de faire beaucoup de lobbying aussi auprès des élus pour leur faire comprendre que ça, c'était le monde du passé et que c'est pas le monde du présent et de l'avenir. Voilà les actions qu'on a fait sur ce point-là. On a eu aussi beaucoup d'actions contre des pollutions que vous connaissez peut-être mieux, qui sont la lutte contre les boues rouges, la pollution des boues rouges dans les calanques de Marseille. Notre association, elle est là pour essayer d'être une vigie sur tous les projets qui sont polluants ou écocides, climaticides en Méditerranée et ailleurs. Je vous remercie.
Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre et déborde le ciel, mais la lune à l'envers, et autour l'océan, c'est l'océan, c'est l'océan, l'océan. Quel colorant éclair a lessivé la terre, où le ciel à l'inverse colorait l'océan, tout autour de la terre, paradis et enfer, ne sont qu'une ombre seule, dans un souffle plus grand, qui dévaste le ciel, réduit tout à néant, inonde l'atmosphère, met tout sous l'océan, c'est l'océan,
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 l'océan.
Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre et déborde le ciel, met la lune à l'envers et autour l'océan, c'est l'océan,
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 l'océan.
Quel colorant éclair a lessivé la terre, ou le ciel à l'inverse, coloré l'océan, tout autour de la terre, paradis et enfer, ne sont qu'une ombre seule, dans un souffle plus grand, qui dévaste le ciel, réduit tout à néant, inonde l'atmosphère, mais tout sous l'océan, c'est l'océan,
c'est l'océan,
c'est l'océan. Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre, et déborde le ciel, met la lune à l'envers, et autour l'océan,
c'est l'océan,
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 c'est l'océan,
c'est l'océan,
c'est l'océan.